ce que disent du pouvoir les images en pays à Caen, deuxième moitié du XXe siècle. Alors, petite localisation. Ces images, vous avez vu à l'instant assez grossièrement représentées l'extension des pays à Caen. Les objets que vous allez voir viennent. Est-ce qu'on peut. Il y a une petite flèche là, non? Ah, il faut chercher. Là. Du sud-est de la Côte d'Ivoire, ici exactement, voilà. Le pays dédié. Dans cette ère culturelle, qui couvre du côté du Ghana principalement les Ashanti et du côté ivoirien dans le sud-est les Agni du Sangvi, du Ndénié et du Moronou, entre autres, on trouve il s'est formé des États dotés d'une organisation sociale et politique structurée. Mais à mesure qu'on s'éloigne de l'épicentre Asante qui est à l'est, et qu'on se déplace vers l'ouest, on remarque que la taille des anciens royaumes a tendance à se réduire et que la structure politique s'assouplit pour donner lieu sur les marches occidentales du monde à Caen, en pays baoulé, à une juxtaposition de vlés, c'est-à-dire d'unités politiques quasiment autonomes, sur lesquels s'exerce d'une façon plus nominale que réelle l'autorité des chefs de Sakassou, qui est la capitale traditionnelle. Là-dessus, je vous renvoie à l'étude de Fabio Vitti, paru tout récemment dans le volume 75 du journal des africanistes, intitulé « Approche croisée des mondes à Caen, histoire, anthropologie, archéologie ». En dépit de ces différences notables du point de vue de l'organisation politique, on est frappé par le caractère constant, la permanence de l'image que le pouvoir dit traditionnel donne de lui-même à travers objets, à travers aussi rituels. Tant et si bien que les objets régaliens en pays Agni étaient en 1970 encore, acheté à des artisans baoulés, sculpteurs et orfèvres, et depuis 1990 environ, on va les chercher à Kumasi. Quand se prépare une intronisation à Bengourou ou à Niablé, on fait le voyage de Kumasi pour remplacer un siège d'apparat ou une canne en mauvais état. Dans cette ère culturelle, traversée par la frontière ivoiro-ghanéenne, dans cette ère culturelle, les figures du pouvoir se déclinent de la même manière en empruntant les mêmes supports différents qui sont l'or, le bois, le laiton des poids à peser l'or et les figurations que portent ces objets sont généralement explicitées de la même façon, avec peut-être quelques variantes ici ou là, mais elles sont rares, explicitées en particulier par des proverbes. Alors moi, je vais tenter de décrire ces objets sur lesquels Marc Garanger interviendra tout à l'heure, à partir de ses propres images. Dont une partie se retrouve ici aussi d'ailleurs, je vais tenter de les décrire tels que je les ai vus en situation lors de cérémonies politiques et religieuses, ou politico-religieuses si l'on veut, entre 1964 et 2001, au cours de mes enquêtes. À travers ces images et leurs commentaires, je voudrais présenter non pas un état des choses arbitrairement figé et comme tiré hors du temps, à la manière de l'ethnologie d'autrefois, mais la façon dont l'héritage du passé est traité aujourd'hui en pays à Caen. Donc, dans ces explications, je me référerai à l'ordre ancien et aux anciennes prescriptions, mais sans faire l'impasse sur les innovations introduites. On sait que dans le monde à Caen, les sociétés sont entrées avec succès, en particulier sur le plan économique, dans la modernité, tout en préservant une part importante des rites et des pratiques ancestraux, et le cas des Ashanti est à cet égard exemplaire. Alors, parmi ces objets, certains nous renseignent sur le détenteur du pouvoir, sur la personne royale, sur le corps physique du roi aussi, et d'autres nous informent sur le pouvoir lui-même. Alors, commençons par la personne du roi. Le terme de roi est employé ici par commodité. En effet, la plupart des objets régaliens que nous allons voir se retrouvent chez tout détenteur de pouvoir traditionnel, quel que soit le rang qu'il occupe dans la hiérarchie politique, du chef de village au roi, en passant par la saforéné, qui est dans la terminologie administrative actuelle chef de canton, on retrouve les mêmes attributs du pouvoir. C'est également le cas dans, je ne sais pas très original, en pays à Caen, on retrouve la même chose dans les royaumes aussi, entre autres. Alors voici une image qui nous représente à Abengourou, le roi Bonzou II, qui a vécu jusqu'en 1994. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est les circonstances et le fait que nous avons à faire ici à une introduction d'un changement considérable. C'est le jour de la fête de l'Igname, janvier 1983, et on voit le roi siéger sur une pyramide sur une sorte d'estrade à degrés, dont je reviendrai là-dessus tout à l'heure, avec la main bandée. C'est une chose qui était complètement inimaginable dans l'ancien temps. Pourquoi ? Parce que le roi qui incarne le peuple, qui garantit la prospérité générale, doit être corporellement intègre. Il ne devait prendre aucun risque et ne toucher à aucun instrument tranchant. Le sang du roi qui coule, c'est le sang du peuple. Or, le roi Bonzou était allé à sa plantation de cacaoyer et s'était blessé avec la machette. Remarquons pour le moment le pectoral sur la partie gauche, le pectoral d'or d'un dignitaire et à droite une canne sur laquelle on reviendra. En raison de ce qui vient d'être dit, le corps du roi est vulnérable, sa personne est fragile. Il est en effet une cible toute désignée pour les malveillants, comme on dit, en particulier pour ses rivaux qui peuvent évincer, qui peuvent agir contre lui en sorcellerie. Le roi traverse ici la cour du palais royal. Il a planté, entre parenthèses, il a planté un cacaoyer, vous voyez les larges feuilles, pour en remerciement, en hommage au cacaoyer qui a donné sa prospérité au pays. Et le roi a une couronne que on va voir un peu plus près. Cette couronne est d'une forme qui n'est pas la forme. C'est une forme assez innovante. Et ce qui est très conforme aux usages, c'est le fait que cette couronne est couverte d'objets dorés. Ces objets dorés, ce sont des talismans. En Ani, on emploie un terme djoula pour le désigner, le terme de sébé. Et en effet, il s'agit de talismans importés dans la zone forestière par des marabouts venus des régions sahéliennes. Alors il s'agit d'étuis de cuir contenant des formules du Coran et recouverte d'une feuille d'or. Ce contact entre les pays sahéliens et les pays forestiers, par le canal de cette importation de la magie venue du Nord, est quelque chose de fort ancien, puisqu'on trouve sur certains sièges ancestraux, on trouve des têtes de lion qui réfèrent à la même origine. Les couronnes classiques, c'est plutôt celle-ci qui orne qui couvre le chef un chef des Bilasekro, Kwaku Anini. Elle est ornée des mêmes talismans, des mêmes sébé. Ici, il s'agit donc de protéger le corps. On a vu tout à l'heure le pagne royal, mais autrefois, c'était des tisserands attachés à la cour qui tissaient ces pagnes et qui, en général, disparaissaient leur travail terminé, préférant s'expatrier. Ce souci d'assurer la sécurité du roi se manifeste aussi par le port de ce pectoral qui, autrefois, se trouvait au cou d'un captif qui accompagnait le roi en toutes circonstances, jour et nuit d'ailleurs, et sa fonction était d'écarter du roi la maladie, d'écarter de lui la mort. C'est une sorte de bouclier qui voué à la protection du roi. Théoriquement, il devait recevoir à la place du roi les atteintes des maléfices des sorciers. Il devait écarter de lui la maladie, la mort. En effet, bon, la mort est un scandale qui plonge le monde dans le chaos, ici comme dans d'autres royaumes africains. Nul ne doit en parler ouvertement, mais seulement à mots couverts, le grand arbre est déraciné, etc. Tout cela est bien connu. Quand le porteur du pectoral, que le roi appelait Krapa, ma bonne âme, quand le porteur de ce pectoral mourait, tombait malade et mourait, c'est qu'il avait bien accompli sa tâche et on lui faisait de belles funérailles. Mais s'il survivait au roi, il était tourné en dérision, vilipendé, etc. Comme un mauvais serviteur. Cependant, si la personne du roi est fragile et menacée, il n'empêche qu'il est, en même temps, il émane de lui une force redoutable dont il faut se tenir à distance. Ceci, c'est la sandale d'un notable d'Abradinou. Et au pied du roi, la sandale est chargée d'ornements d'or. Un interdit veut que le roi ne doit pas mettre son pied nu sur le sol, ce qui déclencherait un désastre naturel, une famine par exemple. Et d'autre part, l'empreinte laissée sur la terre par le pied du roi pourrait être utilisée par des malveillants, par des sorciers. Ce qui fait que quand le roi n'est pas d'accord avec ses conseillers, il fait mine de retirer le pied de sa sandale. Mais c'est un geste qu'il ne fait qu'esquisser, et tout le monde le supplie en mettant, par le geste d'imploration habituel, en mettant le dos de la main droite dans la paume de la main gauche, on le supplie, Mesreo, de ne rien en faire. Puissance dangereuse, donc, qui émane du puissance redoutable, qui émane de la personne royale, et qui explique que la parole du roi ne doit pas toucher directement son interlocuteur, et inversement. Et on voit ici la canne qui a servi d'emblème à ce colloque, qui est une photographie prise à Arras, en pays d'Animrodou, au moment où la foule se dirige vers la place où vont avoir lieu les sacrifices de la fête de l'igname. Ces cannes sont de bois recouvertes d'une âme de bois recouverte d'une feuille d'or, et toutes ces cannes, où que l'on se trouve, donnent des représentations du pouvoir. Alors ici, l'interprétation que l'on donne localement est que le roi ne peut atteindre à ses buts que s'il est soutenu par ses sujets. C'est une sorte de figuration de l'importance du consensus pour le souverain. Autre exemple, dans une à Bébou, à Bengourou, une canne qui représente, on va la voir de plus près, qui représente un lion et un enfant. L'enfant est sorti de chez lui, il s'est hasardé dans la forêt, il a rencontré le lion et il le caresse. Et le lion se retourne et lui dit « Attention, attention, je ne suis pas le mouton de ton papa ». Or, la chefferie de Bébou a connu un déclin au cours des 18e et 19e siècles considérable, et il semble que cette situation-là soit évoquée par la figuration, cette figuration-là. Tout cette double qualité d'être à la fois de détenir une puissance qui est à la fois fragile, vulnérable et en même temps redoutable, place le roi au-dessus de la commune humanité. On voit ici l'estrade à degrés sur lequel est le roi, qui est en position haute par rapport à ceux qui l'entourent. En position haute. Et chacun de ces degrés, coloré différemment, représente un lignage. Donc le roi est au-dessus des lignages. Et d'autre part, le roi, quand il est intronisé, est détaché de son lignage. Il n'appartient pas plus à son lignage. Il est au-dessus et il couvre l'ensemble de la société. Il y avait des estrades de ce genre, en particulier dans les rues de la capitale Ashanti, où le roi prenait place quand très rarement il sortait du palais. Il allait s'installer il y en avait 3 ou 4 dans les rues de Kumasi, que Joseph-Marie Bonnat a fort bien décrite d'ailleurs. Ici, à Yakassé, au nord d'Abengourou, le chef de Yakassé, Eweaka, est porté, allongé sur un hamac, autour de la cour royale où a lieu une fête de l'igname. Et ce hamac, c'est le mongaï, est un attribut régalien. Il est fait en matière végétale, en osier. Alors, question. Bon, on a vu ces deux faces contrastées du pouvoir. Y a-t-il des objets qui nous disent comment le pouvoir doit être exercé? Quels sont les comportements, les politiques que l'on attend d'un souverain? Eh bien, voici un siège d'apparat. Alors, un siège sur lequel on s'assoit. Les rois prennent place sur ces sièges qu'on appelle asipim, qui se trouvent dans l'ensemble, dans toutes les cours royales à Ashanti. Ici, nous sommes à Mbrassué, c'est le siège du chef de village. On peut remarquer tout d'abord les caractéristiques. Il s'agit de sièges de forme qui évoquent les sièges européens. L'assise est de cuir, Et sur les montants de cette chaise, on voit beaucoup de clous, les uns plus gros, les autres plus petits. La forme est visiblement celle des sièges ibériques de Portugal ou Espagne, qui sont réalisés de la même façon. C'est donc une introduction qui vient de l'Europe, sans aucun doute. Siège sur lequel, j'insiste, on prend place, on s'assoit dans les moments importants. Il faut rappeler que les Portugais sont les premiers Européens à s'être installés à la Côte de l'Or à la fin du XVe siècle, créateurs du fort d'Elmina. Alors, selon le propriétaire de ce siège, de cette accipime, on trouve là toutes sortes de symboles, différents motifs qui ornent et qui expriment les principales qualités attendues d'un roi. Alors, de face, on voit ici, sur le barreau médian, là, quelque chose qui dépasse, qui est un nœud. Le nœud symbolise l'intelligence, chose naturellement attendue de celui qui exerce le pouvoir. On voit également des gros clous de cuivre en forme de cabochon qui évoque, explique le chef de Brassuet, qui évoque la force, qui évoque les barils de poudre. Le roi doit avoir la force. Quant à cette multitude de clous de cuivre, il symbolise, il représente les sujets. Et puis, on voit se détacher sur au-dessus du dossier des représentations d'oiseaux autour d'un cercle qui figure une mare. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire? Les oiseaux viennent boire en saison sèche, mais là où il n'y a pas d'eau, personne ne vient. L'eau, c'est la richesse. Chez l'homme riche, ajoutent les commentateurs, les gens se bousculent. Alors, ces représentations, donc, qui expriment les quatre qualités requises d'un roi, l'intelligence, la force, de nombreux sujets et la richesse, elles sont également véhiculées par d'autres supports. Par exemple, les poids pesés l'or. Voici un nœud, symbole de l'intelligence, représenté. L'idée, c'est que seul celui qui peut dénouer le nœud connaît le secret du trésor royal. Et d'une façon générale, c'est une expression d'intelligence. Voici la figuration en pot à peser l'or, aussi ici, voilà, c'est la photographie de celui-là d'ailleurs. Ce sont les oiseaux qui viennent s'abreuver, de la même façon que chez l'homme riche, les gens se bousculent. Alors, on voit ainsi comment un siège de forme européenne a été réapproprié dans la culture à Caen et doté de multiples sens. Passons du roi maintenant au pouvoir lui-même. Des objets nous informent sur les fondements du pouvoir royal. Et on peut guère en parler en les isolant des rituels où ils jouent le premier rôle. Voici un siège noir sur lequel nul ne s'assoit ou ne s'est assis, qui est noirci par les croûtes séchées formées par le sang des sacrifices. Et qui est exposé à Arras le jour de la fête de l'igname en décembre 1978. Alors, au cours de la même occasion, on a sorti un siège rond de forme donc différente, et l'on voit sur ce siège un sabre, un ancien sabre appartenant au personnage auquel a été consacré ce siège, un siège en lame ajourée qui lui aussi est représenté dans les nombreuses figurations des poids à peser l'or. Ces sièges sont appelés sièges de l'héritage. Ils sont bas et monoxyles. Ils ne sont pas du tout la même allure que la cipine, bien sûr. Et chacun d'eux a été incliné post-mortem à un souverain dont on a reconnu les mérites. Seuls les souverains qui ont répondu aux attentes de leur sujet ont reçu cet honneur. Ce qui fait que cette succession de sièges reproduit, en somme, la liste dynastique officielle de la royauté, de la dynastie. Nous sommes ici à Bengourou, au moment toujours de la fête de l'Igname. On voit au premier plan le siège du fondateur qui est très abîmé. Et c'est ce siège que tu as vu au moment de l'intronisation de l'actuel roi Voie Kwasi III, enveloppé, emballé dans des étoffes elles-mêmes recouvertes de sang séché. Et on voit ici les successeurs, dans l'ordre chronologique, des souverains officiellement reconnus. Alors, ces sièges ne doivent jamais reposer sur à même le sol, exactement comme le pied du roi ne doit pas reposer sur le sol. Ce que cette image a de très particulier, vous remarquez plusieurs choses, vous remarquez les bouteilles de gin lead, parce que les libations se font avec gin, mais ce qui fait la singularité de cette image, c'est le fait que le roi Bonzu, sous les sièges, a jugé bon d'étaler une toile tricolore aux couleurs nationales de la Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes en 1969. Fouet Boigny avait une politique assez dure vis-à-vis des pouvoirs traditionnels qui étaient dans la continuité, en gros, dans une large mesure, de la politique coloniale. Dans la mesure où il n'est pas question de parler de royauté, Bonzu II était le chef supérieur de l'indigné. C'était le terme qu'employaient également les colonisateurs. Oufouette, jusqu'aux années 70, avait l'intention de... sa politique, c'était l'extinction des pouvoirs traditionnels. Il ne remplaçait pas les chefs qui étaient arrivés au terme de leur vie et ils n'étaient pas remplacés. Alors Bonzu II a voulu afficher son allégeance à l'État ivoirien et c'est pour ça que j'ai choisi cette photographie qui est certainement moins belle à voir que les précédentes. Cette politique, Fouette l'a abandonnée à partir de 1980, 75-80. Alors, normalement, ces sièges sont conservés dans une chambre des palais royaux ou des demeures des chefs, à l'abri des regards. Ils ne sortent qu'une fois par an, le jour de la fête de l'Igname. Ici, il s'agit d'un lignage qui n'a pas le rang royal, mais qui a une autorité sur un territoire. Il n'est pas question qu'un pouvoir puisse s'exercer sur un territoire sans que son détenteur ait reçu par héritage des sièges noirs, des sièges de ce genre. Et ce jour de la fête de l'Igname, les sièges sont sortis de cette chambre des sièges pour être exposés au regard publiquement et recevoir les offrandes. Alors, Vous remarquerez que ces images ont été pour la plupart prises en situation. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la façon dont cette prise d'image a été opérée. Cependant, ici, nous voyons une image dont la prise a été provoquée par la présence d'une chercheuse et d'un photographe. D'ailleurs, cette photo, moi qui connaissais le pays depuis plus de 20 ans, je n'ai jamais pu entrer dans une chambre des sièges. C'est le photographe masculin qui a pu entrer, ce qui n'a pas manqué de provoquer chez moi une certaine jalousie. Voilà. Bon. Et on voit, j'étais sur le point de publier ce livre sur les animes déliés et le pouvoir politique au 18e, 19e siècle, et je tenais beaucoup à voir ces photos, et moi aussi j'ai fait mon petit geste de demande, là, d'exploration, pour qu'on nous permette de prendre des photos. Donc cette photo, celle-ci, a été prise dans une situation non habituelle, hein, provoquée par l'intrusion d'étrangers que nous étions. Alors ici, on voit les retos, le sabre, qui est qu'on a remarqué tout à l'heure, hein, parmi les objets anciens qui se trouvaient sur l'un de ces sièges. On voit bien la lame ajourée qui caractérise ces sabres à Caen, qui sont des objets régaliens par excellence, puisque quand le roi envoie un envoyé porter ses ordres, cet envoyé devait tenir ce sabre. Et à la mort du roi, on va annoncer sa mort en prenant un éoto de cette sorte, en nouant l'abracon rouge, c'est-à-dire le cache-sexe rouge, un morceau du cache-sexe du roi défunt, et l'envoyé va partout annoncer, sans la nommer, la mort du roi. Et on le questionne, on l'interroge. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment se fait-il, etc. Pourquoi viens-tu? Et lui, il se contente de dire, le roi a mal au pied, ou quelque chose comme ça, et on le harcèle. Et il faut surtout pas qu'il lâche l'information. Le mot ne doit pas franchir ses lèvres. Alors, à Ara, au Moronou, la fête de l'igname, on voit, premier plan, un siège rond avec Eoto, qui a d'ailleurs perdu une partie de sa lame. On voit au fond l'igname, la purée d'igname mélangée d'huile de palme, qui est le nvoufou, la nourriture par excellence des ancêtres. On a déjà versé le thé, bien sûr, pour commencer. Et puis, on promène un mouton qui a été égorgé au-dessus de ses sièges. Et le sacrificateur nomme les détenteurs de ses sièges dans l'ordre où ils ont régné, hein, en même temps qu'il leur parle. Et c'est une façon de les rendre présents, de les invoquer au sens fort. Les évoquer au sens très fort du terme, évoquer l'évocation des Romains, c'est un peu cela. Et ici, la tension est à son comble, la cérémonie est en train de s'achever, elle va s'achever brusquement. C'est très curieux parce qu'elle commence lentement, il faut que tout le monde vienne se mettre en place, il faut aller demander l'autorisation des ancêtres en leur disant le jour est arrivé, avant que toutes ces phases se déroulent comme il le faut. Et au dernier moment, au contraire, tout se termine très très vite en un clin d'œil. Et ici, cette jeune femme est inspirée par les ancêtres. Le contact recherché a été créé. Elle parle en leur nom et donne souvent des indications sur le présent qui viennent qui viennent des ancêtres. Et il y a là un moment très fort, très très fort. On sent que la cloison entre le passé et le présent est cassée. Les ancêtres sont là, on le sent dans l'ambiance générale. Alors, voici un lignage mineur Là aussi, c'est une scène provoquée, une image provoquée, le même jour d'ailleurs que celle dont on parle, que la sortie du siège de la Chambre des siècles pour qu'on les photographie. Ceci, c'est un lignage mineur, ce qui fait que tout lignage, que ce soit lignage royal qui domine tout un territoire, que ce soit un lignage mineur qui ne termine qu'une partie du, qui ne domine qu'une partie du terroir villageois, en l'occurrence à Bradinou, il possède des sièges. Alors, quand vous voyez 3 sièges au lieu de 10, en tant qu'historien, vous savez que c'est un lignage de création récente. C'est déjà une indication. Et autre chose qui m'avait beaucoup touchée, c'est que ce jeune homme qui est là venait d'hériter et il a, étant donné le long temps que je venais à Bradinou depuis tant d'années, il a accédé à ma demande. Je me suis dit, je ne veux pas publier si je n'ai pas ces photographies d'Abradinou. Bon, voilà. Donc, mais il a dit, je ne veux pas être photographié si mes mères ne sont pas là. Et ses mères, il est allé les chercher à l'autre bout du village, ça a pris un certain temps, parce que sans elles, il était impossible pour lui d'être assez... Rappelons qu'il s'agit de sociétés matrilinéaires. Enfin, moi, je ne suis pas là pour vous parler des acanthes qui pourraient durer un certain temps, mais pour vous présenter des images. Et ces deux femmes étaient de son lignage, son aboussouan matrilinéaire. Elles étaient, si vous voulez, cousines utérines, hein, du même lignage maternel. Le terme de cousin, d'ailleurs, doit être rejeté. Bon, c'est pas un bon mot. Et ce que je voudrais dire, en terminant, c'est que ces objets particulièrement chargés de sacralité ne sont pas à la disposition du roi. Par exemple, le roi ne peut pas entrer dans la chambre des sièges. Il ne peut pas pénétrer, ou le chef de lignage dans ce cas, ne peut pas pénétrer tout seul dans la chambre des sièges. On craindrait qu'il ne cherche, par son lien particulier avec ses ancêtres, qui sont ici représentés en quelque sorte, qu'il pourrait agir contre tel ou tel rival ou tel adversaire. Donc, il ne pénétrera dans cette chambre que très rarement et accompagné du sacrificateur, de celui dont la fonction est d'assurer le service de l'officiant qui se charge de tout ce qui concerne ses sièges. D'autre part, vous avez vu tout à l'heure, je crois, voilà, le siège premier, qui est le plus important de tous, c'est le siège du fondateur, de celui qui a installé le royaume. C'est ce siège-là qui est sorti au moment de l'intronisation, et le roi, qui n'est pas encore roi, qui est l'héritier désigné, est mis en présence de ce siège, au milieu d'une foule nombreuse et dense. Et le moment décisif est celui où le roi va physiquement s'approcher de la diabia, qui est le siège de l'héritage. Cependant, à aucun prix, il ne doit le toucher. Il est soutenu par 2 vieilles dames qui le tiennent par les aisselles et qui font mine de l'asseoir. Et au dernier moment, il est relevé brusquement. Et cela à 3 reprises. Et quand on demande qu'est-ce que cela veut dire, pourquoi est-ce que le roi doit être mis en présence du siège du fondateur et pourquoi ne peut-il le toucher ? On nous dit, s'il le touchait, il deviendrait impuissant dans tous les sens du terme. Il n'en est pas question. Et pourquoi ? Eh bien, ce siège n'est pas sa chose. Ce siège ne lui appartient pas, il en est le dépositaire pour une certaine période, le temps de sa vie, ou enfin, qui peut s'achever avec sa mort, ou avec ou alors en cas de déposition, ce qui est arrivé à maintes reprises, à plusieurs reprises, la déposition des rois en pays à Caen est quelque chose qui se produit assez souvent. Tout dernièrement, le roi des Amis, Sandier, a été déposé par son peuple et par les représentants du peuple, qui sont les grands les assafoïnés, et il a fallu attendre 2 ans pour qu'il soit remplacé, ce qui vient d'être fait. Donc, il est bien clair qu'il ne s'agit pas d'une propriété du roi, il en est simplement le dépositaire. C'est en somme à l'opposé de l'État patrimonial. C'est une notion de l'État qui est en contradiction avec, complètement en opposition avec l'État patrimonial. C'est une chose qui m'a paru particulièrement intéressante. Alors, en conclusion, je voudrais faire 2 remarques. Au passage, j'ai signalé des emprunts qui ont été faits au monde extérieur. D'une part, des emprunts au pays du Sahel, avec la magie musulmane, à laquelle on demande, alors que c'est... Il s'agit ici c'est que le roi ne peut pas être musulman. Pourquoi ? Parce qu'il serait circoncis et l'intégrité corporelle du roi doit être conservée à tout prix. Donc, pas de roi musulman. Cependant, on adopte des protections magiques qui viennent de l'islam. D'autre part, on voit aussi que le siège d'Apara, sur lequel on s'assoit, ce siège d'Apara, lui, est d'inspiration ibérique, donc importé. Des innovations ont pu être aussi introduites dans l'autre sens. Ainsi, Kwame Nkrumah ne s'est pas servi de girafe comme symbole du nouveau pouvoir, mais des symboles à Caen, les rotos, le sabre, entre autres, à figurer dans le symbolisme de l'État ghanéen, le Ghana qui a fait son indépendance en 1957. Bon, donc, les innovations sont présentes dans un sens et dans l'autre. Deuxième remarque, cette image du pouvoir assurée par cette image du pouvoir qui est présente dans toutes ces figurations, elle a franchi les limites du monde visible. Elle s'impose aussi dans le monde invisible, qui est gouverné par des déités, les bossons, les génies, qui aura dans cette chambre que très rarement est accompagné du sacrificateur, de celui dont la fonction est d'assurer le service de l'officiant qui se charge de tout ce qui concerne ces sièges. D'autre part, vous avez vu tout à l'heure, je crois, voilà, le siège premier, qui est le plus important de tous, c'est le siège du fondateur, de celui qui a installé le royaume. C'est ce siège-là qui est sorti au moment de l'intronisation, et le roi, qui n'est pas encore roi, qui est l'héritier désigné, est mis en présence de ce siège, au milieu d'une foule nombreuse et dense. Et le moment décisif est celui où le roi va physiquement s'approcher de la diabia, qui est le siège de l'héritage. Cependant, à aucun prix, il ne doit le toucher. Il est soutenu par 2 vieilles dames qui le tiennent par les aisselles et qui font mine de l'asseoir. Et au dernier moment, il est relevé brusquement, et cela à 3 reprises. Et quand on demande à nos... Quand on demande qu'est-ce que cela veut dire, pourquoi est-ce que le roi doit être mis en présence du siège du fondateur et pourquoi ne peut-il le toucher, on nous dit « Ah, s'il le touchait, il deviendrait impuissant dans tous les sens du terme. » Il n'en est pas question. Et pourquoi ? Eh bien, ce siège n'est pas sa chose. Ce siège ne lui appartient pas. Il en est le dépositaire pour une certaine période, le temps de sa vie, ou enfin, qui peut s'achever avec sa mort, ou avec, ou alors en cas de déposition, ce qui est arrivé à maintes reprises, à plusieurs reprises, la déposition des rois en pays à Caen est quelque chose qui se produit assez souvent. Tout dernièrement, le roi des Amis Sandier a été déposé par son peuple et par les représentants du peuple, qui sont les grands les assaforinés, et il a fallu attendre 2 ans pour qu'il soit remplacé, ce qui vient d'être fait. Donc, il est bien clair qu'il ne s'agit pas d'une propriété du roi, il en est simplement le dépositaire. C'est en somme à l'opposé de l'État patrimonial. C'est une notion de l'État qui est en contradiction avec, complètement en opposition avec l'État patrimonial. C'est une chose qui m'a paru particulièrement intéressante. Alors, en conclusion, je voudrais faire 2 remarques. Au passage, j'ai signalé des emprunts qui ont été faits au monde extérieur. D'une part, des emprunts au pays du Sahel avec la magie musulmane à laquelle on demande, alors que il s'agit ici c'est que le roi ne peut pas être musulman. Pourquoi ? Parce qu'il serait circoncis et l'intégrité corporelle du roi doit être conservée à tout prix. Donc, pas de roi musulman. Cependant, on adopte des protections magiques qui viennent de l'islam. D'autre part, on voit aussi que le siège d'apparat sur lequel on s'assoit, ce siège d'apparat, lui, est d'inspiration ibérique, donc importé. Des innovations ont pu être aussi introduites dans l'autre sens. Ainsi, Kwame Nkrumah ne s'est pas servi de girafe comme symbole du nouveau pouvoir, mais des symboles à Caen. Les rotos, le sabre, entre autres, a figuré dans le symbolisme de l'État ghanéen, le Ghana qui a fait son indépendance en 1957. Bon, donc, les innovations sont présentes dans un sens et dans l'autre. 2e remarque, cette image du pouvoir assurée par cette image du pouvoir qui est présente dans toutes ces figurations, elle a franchi les limites du monde visible. Elle s'impose aussi dans le monde invisible, qui est gouverné par des déités, les bossons, les génies, dont les relations avec les humains sont assurées par des comiens. Des sabres, des éotos aussi, mais ils sont tout de bois. Ils sont tout de bois, pas de fer. Et d'autre part, tout est recouvert de kaolin, tout est blanchi dans le monde des comiens, dans le monde des bossons, dans le monde de l'invisible. On a donc le sentiment qu'il y a un seul mode de représentation du pouvoir qui prévaut aussi bien dans un monde que dans l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire.